Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Stéphane Covio.
Bonjour Anne Robbins. Vous êtes conservateur peinture au musée d'Orsay. Nous célébrons le 150e anniversaire de l'impressionnisme en France. Nous avons compris la semaine dernière qu'il ne venait pas de nulle part, ni par hasard. Pour être reconnu ou accepté, un peintre devait être sélectionné pour accrocher au salon. Et puis en 1874, des peintres font dissidence et organisent une exposition dans l'atelier du photographe Nadar, 35 boulevard des Capucines. C'est là où est installé l'Olympia aujourd'hui.
Alors c'est en face, très exactement.
Voilà.
C'est à ce niveau-là, effectivement.
Alors une trentaine de participants ?
Exactement, 31 précisément.
Et ils seront plus que 9 en 1882 ?
En 1882, exactement.
Ils se sont tués, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors le groupe se resserre en fait. Le groupe est vraiment constamment à composition variable.
Ouais.
Voilà, ne cesse d'intégrer de nouvelles recrues et de perdre des participants. Donc en fait, on n'aura jamais, on ne peut pas dire d'une année sur l'autre, parce que l'exposition n'a pas cette régularité-là,
non.
Elle n'aura pas lieu tous les ans, mais d'une édition à l'autre, le groupe ne cesse de changer de forme, en fait, de se défaire, de se reformer, et jamais avec le même casting.
Alors les premiers, ce n'est pas des perdreaux de l'année, hein. Sauf Caillebotte qui a 26 ans, Monet a 34 ans, Manet 42, Renoir 33, Gauguin plus tard. Or à 26 ans aussi, Morisseau on a 33, Pissarro 44 et Cézanne 35, ce qui fait une moyenne d'âge de 34 ans pour ces peintres-là.
Alors en quelle année ?
Ah ben en 1974.
En 1974, oui, d'accord. Oui, oui, oui.
Quand on commence.
Oui, oui. Oui, non, effectivement.
Donc c'est pas des jeunes, hein ?
Non. Ils ont déjà un bout de carrière derrière eux. Donc le doyen du groupe impressionniste à proprement parler, parce qu'il faut bien faire la différence, hein, le groupe, surtout en 74, est très hétéroclite, c'est Pissarro, ouais. Qui a déjà vraiment un morceau de carrière derrière lui, puisqu'il commence à exposer au salon en 1859. Et la plupart d'entre eux... vont commencer à envoyer des œuvres, enfin être admis en tout cas au salon à partir de 1865. Donc effectivement, ce ne sont pas des débutants. Ce ne sont ni des débutants ni de jeunes rebelles.
Voilà. Non, mais il faut bien le dire parce qu'on a tendance à voir toujours un peu le côté révolutionnaire. Dans cette exposition de 1874, on peut s'imaginer que c'est une dissidence par rapport au salon, que c'est une envie d'en découdre. Mais en fait, non. C'est...
Alors, malgré tout, il y a tout de même cet élément-là. Le salon reste le moteur, enfin le déclencheur principal,
oui,
de leur initiative d'exposer ensemble, puisque c'est quand même avant tout mu par une lassitude grandissante, croissante, par rapport à ces refus répétés qu'ils essuient au salon, en particulier à partir de 1867 à peu près. Et donc ça va être, il y a quand même cet élément-là, il y a cet élément d'opposition au salon officiel, mais pas seulement.
Est-ce qu'en 1974, le jury est constitué d'artistes uniquement ? Je cite de mémoire Zola, qui explique à un moment donné que le salon va changer parce que le jury sera exclusivement constitué d'artistes élus.
Ce sont tous des artistes, oui, oui. Les membres
du jury. En 74.
Qui prennent, je crois.
Oui, d'accord.
Poser une colle. Oui. Ce sont eux qui prennent les décisions et qui vont qui vont statuer sur les œuvres qui leur sont soumises, et ce sont effectivement des artistes.
Alors l'accrochage.
Alors qui jugent sur des critères autres.
Mais oui. Oui. Alors l'accrochage au salon est complètement horrible.
Alors, horrible, disons qu'il est... en tout cas, il est très différent de ce que va être l'accrochage de la première exposition impressionniste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu souligner dans notre accrochage, dans notre présentation sur les 6 messes du musée d'Orsay. Donc, c'est d'abord le problème de l'accrochage au salon, c'est qu'il faut, donc dans ces salles du Palais de l'Industrie, il faut loger un nombre colossal d'œuvres. Voilà, exactement, c'est presque 4000 œuvres, alors toutes techniques confondues,
hein,
seulement. pas seulement peinture, et donc les faire tenir sur des cimaises qui sont certes hautes, mais malgré tout, on ne peut pas y arriver sans passer par un accrochage extrêmement dense, qui effectivement va pénaliser les œuvres qui sont accrochées le plus en hauteur. Hein. Et ce sont vraiment, ce sont entre autres ces questions-là d'accrochage et de présentation.
Et de respect de l'œuvre.
Et effectivement, qui vont pousser, qui vont motiver ces artistes à exposer ensemble selon des modalités qu'ils auront eux-mêmes décidées et qui ne leur seront pas imposées par le salon, par cette
Alors, en parallèle à l'exposition que vous avez réalisée, Paris 1874, inventer l'impressionnisme.
Alors, avec ma collègue co-commissaire Sylvie Patry.
Voilà. En parallèle, il y a cette exposition sidérante de réalité virtuelle où on est plongé. On est boulevard des Capucines, on suit une petite dame qui s'appelle Rose, qui a un parapluie qu'elle doit remettre à Berthe Morisot, et alors on la suit chez Nadar, et là, on assiste à vraiment cette toute première exposition, les murs sont rouges, et il y a un accrochage, c'est le vrai accrochage de l'époque, ou vous l'avez réimaginé ?
Alors, il se fonde sur des recherches, oui. Donc Sylvie et moi avons fait, en vue de cette exposition, en vue de ce projet Paris 1874, donc c'est à la fois l'accrochage qu'on propose dans l'expérience virtuelle est à la fois fait de se fonde sur des certitudes et sur des hypothèses et sur des propositions donc on y a travaillé. Rien n'est laissé au hasard.
Donc
on sait par exemple que dans la première salle, alors qui est celle sur laquelle on a le plus d'éléments sur lesquels se reposer, donc se côtoyer des œuvres de Renoir, de Degas. Donc là, pour le coup, on est à peu près sûr de ce qu'on propose, de ce qu'on avance. Et après, on a effectivement, pour arriver à cette proposition qu'on soumet dans une forme effectivement virtuelle, oui. On s'est fondé sur des écrits, puisqu'il n'y a pas de source visuelle. Il n'y a pas d'image de la
impression du soleil levant au-dessus des coquelicots.
Ça, c'est une hypothèse.
Ah, mais j'ai trouvé ça étonnant.
Alors, on sait que l'accrochage était monographique, donc les artistes étaient groupés par
les œuvres étaient groupées par artistes.
Exactement, les œuvres étaient groupées par artistes, c'est-à-dire pas disséminées a priori d'une salle sur l'autre, et donc on propose effectivement cette présentation fondée sur les recensions des critiques qui ont vu l'exposition et qui l'ont commentée en 1874.
Alors Louis Leroy, le journaliste de Charivari, veut faire un bon mot. Il dit c'est de l'impressionnisme et puis finalement ça va rester. Il y a une quinzaine de tableaux qui vont trouver acquéreur, un chiffre d'affaires de 3500 francs.
Alors, même pas une quinzaine, hein. Il y en a quatre. Qui vont être vendus pendant la durée de l'exposition elle-même et une juste après, la Maison du Pendu de Cézanne. Ça fait 5 seulement, en tout.
Et le chiffre d'affaires est bien de 3500 francs ? Ou j'étais mal informé ?
Alors non. C'est fortement déficitaire. L'exposition est un gouffre financier. Donc la société anonyme coopérative des peintres sculpteurs graveurs va être mise en liquidation dès la fin de l'année 1874 et dissoute dès janvier 75. Donc aucun bénéfice. En fait, il y aura ceux qu'on peut commencer à appeler les impressionnistes commenceront à faire des bénéfices l'année suivante, à raison de 30 francs par artiste, et je crois en particulier en 1879, où les bénéfices vont être de 100 francs par tête.
Alors, Monet est un panier percé. En 74, il aurait encaissé 10 554 francs, soit 8 fois le traitement d'un fonctionnaire moyen. En 74.
Alors en 74, pas seulement avec bénéfices réalisés.
Que les toiles se vendent 100 francs, c'était ce que
un petit peu plus.
Ce que vous venez d'évoquer,
de 100, 250 francs jusqu'à pour les plutôt autour de 1000 francs pour un paysage à la première exposition impressionniste. Sachant que Renoir se vend Cézanne se vend moins bien. Cézanne est moins
coté
et moins recherché.
100 francs, pour se donner une idée, c'est le salaire hebdomadaire d'un fonctionnaire. Et Monet vendra les cathédrales de Rouen 12 000 francs. C'est vous dire la cote qu'il a.
Oui, mais, enfin... mais c'est déjà pas mal. C'est beaucoup plus tard.
C'est
20 ans plus tard. Donc les choses ont changé. Le marché s'est développé.
74, un gouffre financier. Deuxième exposition.
Mais enfin, un gouffre financier, mais alors pas un succès critique, mais c'est tout de même l'exposition qui fait émerger l'impressionnisme.
Oui.
C'est-à-dire que c'est à partir de cette exposition-là que, qu'en tout cas, les plus perspicaces des journalistes vont voir émerger au sein d'un groupe d'artistes qui, encore une fois, est très disparate, quelques novateurs qui pratiquent une peinture nouvelle, très ancré dans le réel, une peinture de la vie contemporaine, peinte différemment, donc très esquissée et très libre
dans
ses sujets et dans son traitement.
Et les artistes eux-mêmes, quelles impressions ont-ils eues à l'issue de l'exposition par rapport à leur propre carrière, en fait, à ce moment-là? Ils sont contents de l'opération ou ils sont déçus de l'opération?
Alors, ça n'a pas été un succès commercial, mais ils ont montré. Alors, ils ont réussi en ce sens où ils ont leur peinture a été remarquée et ils ont réussi. Leur nom commence à émerger.
Et ça, ils se rendent compte qu'il y a un lien entre les deux.
Oui. Et donc tant et si bien. Donc, ils organisent en début d'année 75 une vente aux enchères de leurs œuvres, donc rebondissant un peu sur cet événement-là, qui là, pour le coup, va être vraiment un flop absolu.
Et en plus, Cézanne va s'engueuler avec Renoir parce qu'il refuse de payer la location du lieu.
En 76 ?
Ouais.
Oui, alors en 76, l'exposition va se tenir dans la galerie du marchand Paul Durand-Ruel.
Oui. Donc deuxième exposition, on est deux ans plus tard. Hein. Là, il va y avoir moins d'exposants, mais un nombre d'œuvres exposées qui augmente pour chaque artiste. 24 pour Degas, 19 pour Monet, et pour Renoir, 17 pour Morisot, 12 pour Pissarro, 8 pour Caillebotte et pour Sisley. Et alors, ils vont faire un truc incroyable, mais peut-être que c'est lié au marchand, ils vont rendre la même communication que pour une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'ils vont faire des affiches qu'ils vont coller un peu partout. Et on va confondre un peu, au départ, si c'est une pièce de théâtre ou une exposition. C'est assez marrant comme idée.
Oui, ils avaient des idées neuves en matière de ce qu'on appellerait aujourd'hui le marketing. Enfin, déjà en 1874, avec cette idée qui ne va pas être reprise, d'ailleurs, dans les éditions suivantes, d'ouvrir en soirée. Donc, puisque l'exposition fermait à 18h et puis rouvrait en nocturne de 20 à 22h, donc ce qui était complètement neuf. Et puis même, dans la façon, déjà en 1974, dans la façon dont l'exposition va être annoncée dans la presse, à intervalles réguliers, avant son ouverture. Donc c'est très soigné, c'est très maîtrisé de ce côté-là.
Toile majeure de cette deuxième exposition, on en parlera dans une émission ultérieure, Les Bains de la Grenouillère de Claude Monet.
Oui, effectivement. Donc, qui est déjà une toile ancienne, puisque il y a plusieurs versions. À la fois, le motif va être peint à la fois par Renoir et Monet en 1869, donc sur le site à la Grenouillère, alors qu'on évoque par ailleurs dans l'expérience virtuelle que vous avez dû voir, on y fait un petit excursion.
J'ai failli tomber dans l'eau.
Ça, c'est normal. Tout le monde trébuche et donc, effectivement, parmi la sélection des œuvres en 76 figure ce tableau.
Cette deuxième exposition est un succès.
Alors, elle engrange ce bénéfice minime de 30 francs par artiste. Et puis, elle voit aussi l'arrivée de Caillebotte dans le groupe.
Avec les cireurs de parquet ?
Exactement, avec les serrures de parquet. Donc, en fait, qui ont été refusées au salon de 1875 et qu'il expose à la deuxième exposition impressionniste en 1876.
Il est sympa, Caillebotte.
Alors, il est sympa, et puis surtout, il a l'avantage d'avoir des moyens financiers que les autres n'ont pas. Donc, ce qui va.
Mais il pourrait les garder pour lui, alors que non, il va acheter des toiles à la Renoir. Il va acheter.
Oui, donc, très tôt, il commence à acquérir le travail de ses amis et confrères, puisqu'en 1877, en fait, une partie des œuvres qui vont faire partie de la sélection sont effectivement déjà font déjà partie de la collection de Caillebotte.
Ouais, je le trouve d'une grande élégance. Il est avec son chien, son chapeau haute forme, il fait du bateau, il collectionne des timbres. Enfin, c'est un type merveilleux.
Oui, alors il n'était pas... Voilà, après, il y a des dissensions dans le groupe, il y a eu des tensions avec Degas.
Oui.
C'est pas non plus... Il n'y a pas cette espèce d'harmonie générale dans le groupe, mais effectivement, il s'est engagé de manière significative pour le maintien et la survie de ces expositions. Et pour la promotion de cette nouvelle peinture.
Alors, on arrive à la troisième exposition, 1877, Caillebotte, les rues de Paris quand il pleut. Ça s'appelle précisément Rue voilà, de Paris Tempuis.
Voilà, exactement.
En 1877.
Et puis, donc,
j'adore cette toile.
Alors, c'est l'exposition de 77. On l'illustre, on l'évoque dans notre exposition sur 1874. Elle en constitue en quelque sorte l'épilogue. Donc, on a simplement un tableau de Caillebotte pour illustrer la présence de Caillebotte, qui vient d'ailleurs d'une collection privée, donc les peintres en bâtiment. Mais
formidable tableau d'ailleurs.
Fabuleux avec ses lignes perspectives, enfin qui montrent justement ses ouvriers en train de peindre une devanture de magasin.
C'est cette perspective
un peu vertigineuse.
C'est un peu les cireurs de parquet, mais à la verticale.
Oui, puis en extérieur.
Et en extérieur.
Exactement. Oui.
Mais on retrouve ce même ton, cette même passion de l'ouvrier finalement.
Oui, et puis cette composition extrêmement construite et rigoureuse et qui vraiment fait pénétrer le regard très loin dans le tableau. Et puis une harmonie colorée qui, c'est vrai, est assez semblable.
On le retrouvera au mois d'octobre dans la grande exposition Caillebotte que vous préparez.
Oui, effectivement, le tableau y figurera.
Ah, merveilleux. Voilà. Donc il ne repart pas chez le...
Non, en fait, c'est un tableau qu'on a pris en dépôt entrant. C'est le jargon des musées, voilà, les dépôts sortants, les dépôts entrants. Donc, qui va rester au musée, même, je crois, au-delà de l'exposition Caillebotte. Et qu'on est très content d'avoir. Parce que c'est important de représenter Caillebotte, qui pendant longtemps, sur les cimaises du musée d'Orsay, a surtout été présent en tant que collectionneur et donateur, mais qui a été représenté insuffisamment en tant qu'artiste.
Et moi, je pense que lors de l'exposition Caillebotte, on parlera plus longuement de ce tableau, qui pour moi est une des œuvres les plus fascinantes de Caillebotte. Mmh. Je trouve ce tableau incroyable. C'est avec ce tableau que je suis entré dans Caillebotte. On en reparlera, mais là, c'est pas le moment.
Bon, puis ce sera mon collègue Paul Perrin, qui est commissaire de l'exposition Caillebotte à venir à l'automne et en charge des œuvres de Caillebotte au musée d'Orsay.
Eh bien, nous l'accueillerons avec grande joie. Et en tout cas, le fait que ce tableau demeure sur les cimaises d'Orsay, c'est pour la plus grande joie de nos regards, évidemment. Donc là, sur cette troisième exposition, il y a des nouveaux qui arrivent. Je crois que Renoir part...
En 77, pas encore. C'est en 78 où l'exposition ne se tiendra pas que Renoir de nouveau s'oriente vers le salon. Va retourner au salon puisque en fait c'est ces artistes qui d'une certaine manière, sont tous, sauf Cézanne, issus du salon dans les années 1860, deuxième moitié des années 60, vont pour certains y retourner. Certains comme Renoir ou Monet. Mais ça reste
la consécration.
C'est une forme de validation officielle de leur travail.
Donc il faut passer par là. Alors, cette troisième édition, la presse est là, le public maintenant ne va plus pour y rigoler ou se moquer, ils y vont peut-être intéresser parce que ça fait une, deux, trois, c'est pas un one-shot comme on dit, et donc ça s'inscrit dans le paysage, je vais le dire, culturel parisien. Ou c'est encore un peu à la marge?
Oui, le groupe commence à être mieux identifié. Ça devient un rendez-vous quasi annuel. Oui, à l'exception, bon, il n'y a pas eu d'édition en 1875. Donc ça commence à acquérir cette régularité. Et puis les contours de cette nouvelle peinture commencent à mieux se dessiner, puisque, comme vous le disiez, donc le groupe est plus resserré. On a plus de peintures, mais moins d'artistes, et une peinture plus homogène. Et ça, je pense qu'on le voit très bien dans cette dernière salle de notre exposition, en fait, qu'il y a cette espèce d'unité, de couleurs, de lumière,
magnifique.
De traitement, qu'on n'a pas du tout encore en 1874, où c'est encore le fait d'un petit groupe. En fait, il y en a 7 en 1974 qui pourront par la suite être qualifiés d'impressionnistes, à côté de toute une pléthore d'artistes dont, pour certains, le nom est complètement tombé dans l'oubli. Donc c'est vraiment en 1877 que commence à se cristalliser cette nouvelle peinture. Et puis aussi, c'est un moment important, puisque c'est le message qu'on essaie de faire passer dans notre exposition. C'est le moment où les artistes s'approprient le terme impressionniste, donc débarrassés de sa connotation péjorative.
Ironique.
Donc ils en font plus qu'ironique, enfin, vraiment insultante. Hein. Donc ils en font la bannière la bannière, en fait, qui va accueillir les visiteurs à l'extérieur de l'exposition. Et c'est aussi le titre d'une revue artistique qui va paraître en simplement 4 numéros, qui s'appelait L'Impressionniste. Et c'était une idée très ancienne, hein, qui faisait partie du projet élaboré dès fin 1873 d'organiser des expositions indépendantes. Elle devait s'accompagner d'une revue artistique mettant en valeur, faisant la promotion de cette nouvelle peinture. Et cet élément-là du projet ne va arriver à sa réalisation qu'en 1877, avec l'apparition de ces 4 numéros. L'impressionniste.
C'est un peu l'idée d'un catalogue ?
Pas vraiment.
Non.
Non, c'est plus. Ben là, toutes les expositions ont eu leur catalogue. Non, non, c'est vraiment. Ce sont des commentaires, des articles de commentant la peinture. C'est plus qu'un catalogue. C'est vraiment.
Une vraie réflexion.
Oui.
Quatrième exposition, nous sommes en 1879. Qu'est-ce qui différencie de la précédente?
Alors, en 1879, donc c'est l'année où l'exposition va intégrer d'abord deux artistes femmes en plus, donc ce qui est significatif, puisque jusqu'à présent, on avait eu deux femmes artistes, en fait, trois femmes artistes au sein du groupe. Donc, bien sûr, Berthe Morisot, qui va être très régulière, une participante très régulière aux expositions impressionnistes.
Elle est très belle dans votre exposition virtuelle.
Ah bon, très bien. Bon, on y a travaillé. On a eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal avec le personnage de Berthe Morisot. Je dois vous avouer, c'était très compliqué.
Bah, il est très ici.
Ok, bon, très bien. Voilà. Ça fera plaisir. Et puis aussi à ma collègue Sylvie Patry. On y a passé du temps à la définition, avec bien sûr les équipes de Gédéon. Hein. Qui ont œuvré à ça. Et en 1974, il n'y a pas seulement Berthe Morisot, il y a aussi une autre artiste, la mystérieuse comtesse de Luchère, qui ne figure pas au catalogue, mais dont on sait qu'elle a exposé un tableau, parce qu'il est commenté par une critique, en fait, qui s'appelait Marc de Montifaux, mais c'était un pseudonyme, qui commente de manière assez détaillée un lieutenant de Lancier comme étant exposé par cette mystérieuse comtesse de Luchère à la première exposition impressionniste. Et Sylvie en particulier a fait des recherches pour en savoir plus sur elle, et on n'a pas fini d'en découdre avec la comtesse de Luchère. Et puis il y a une autre artiste femme à avoir participé aux expositions impressionnistes, qui est la comtesse de Rambure. Et je crois qu'elle, la comtesse de Rambure, elle apparaît en 76, en 77 et à la dernière exposition en 86. Et là aussi, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'elle... Elle, pour le coup, apparaît au catalogue sous le pseudonyme de Jacques François, mais on ne sait pas ce qu'elle y a exposé. En fait, on a des titres, mais les œuvres sont perdues. Mais on ne peut pas... tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas limiter le groupe des femmes impressionnistes, enfin des artistes femmes ayant participé aux 8 expositions impressionnistes, au seul Morisot, Mary Cassatt et Marie Braquemont. Alors pour revenir à 1879, c'est l'année où vont participer pour la première fois à une exposition impressionniste, donc Mary Cassatt, américaine, et Marie Braquemont, qui était l'épouse de Félix Braquemont, donc graveur très réputé.
Merci, ça c'était la première partie, puisqu'on va jusqu'en 1879. Merci beaucoup Anne Robin, je rappelle que vous êtes conservatrice peinture au musée d'Orsay. Merci Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpeuch, Camille Meyer, Faustine Cléry pour la réussite technique de notre entretien. Demain mardi, nous repartons à bicyclette. Prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.